We would like to welcome everybody.
Nous voulons souhaiter la bienvenue à tous ceux et celles qui se sont réunis autour de quelques équipements qui vous permettra, j'espère, d'entendre cette réunion et d'entendre ce que le Seigneur veut dire. Le Seigneur, par son esprit, peut parler aux personnes malgré la distance. Mais la chose la plus importante est que ton cœur soit en ordre. Si tu as cette faim pour entendre la voix de Dieu, si tu es aussi disposé et prêt à accepter ce que le Seigneur veut te dire, l'instruction que le Seigneur veut te donner, et que non seulement tu l'entendes, mais que tu l'écoutes, tu le mettes en pratique, alors Dieu peut parler n'importe où. Dieu peut parler à quelqu'un qui est en prison, dans une cellule, tout seul, isolé de tous, et pourtant Dieu parle là. Donc notre prière est que Dieu puisse nous parler ce matin. Alors, prions ensemble. Père Céleste, nous nous inclinons devant toi et nous te remercions de pouvoir nous rassembler ensemble autour de ta parole. Il n'y a qu'une seule clé dont nous avons besoin afin de comprendre et d'entendre ce que tu veux nous dire à travers cette parole. Sans cette clé, cette parole serait ennuyeuse, on pourrait dire, est inutile, vaine. Mais cette clé, Seigneur, c'est ton Esprit Saint. Toi, Dieu, Trinité, que ton esprit puisse apporter la vie, que cet Saint-Esprit puisse briser toutes les barrières dans notre cœur qui nous empêchent de t'entendre. Que chacun d'entre nous puisse t'entendre, toi, nous parler. Amen. Mes amis, nous vivons dans une période où tant de choses sont dites sur les derniers temps. Ce temps où l'Antichrist sera révélé, ces temps de la fin. Et c'était sur mon cœur de me dire, c'est peut-être une bonne chose d'avoir une certaine perspective sur ces choses. Il n'y a sans aucune ombre de doute que nous expérimentons un certain nombre de choses qui sont très clairement des signes. Mais chacun y va de sa petite théorie, de ce qui va se passer et quelle va être la suite, et ainsi de suite. Chacun, et en particulier avec cette pandémie, cette maladie de Covid. Mais une personne qui ne ressentirait pas qu'il y a quelque chose qui se passe, si quelqu'un ne ressent pas dans son cœur que ce que nous vivons est quelque chose de particulier, alors je pense que cette personne est aveugle. Mais il nous faut être éveillés, réveillés. Mais en même temps, nous devons ce que il a déjà été dit, ce que aussi le pasteur Stegen nous disait, nous disait dans le passé, à savoir lorsque Dieu agit, le diable est aussi lui à l'œuvre. Donc, en même temps, nous voyons des choses qui se passent autour de nous et il y a en même temps des choses qui se passent autour de nous et certains y vont de leurs prédictions, on pourrait dire, qui sont complètement folles. Et vous savez le danger lorsque nous mélangeons la vérité avec le mensonge. Alors, lorsqu'on mélange les deux, les chrétiens perdent toute crédibilité aux yeux du monde. Les chrétiens deviennent alors un groupe de personnes qui sont bizarres et qui croient toutes sortes de choses bizarres. Et alors, ainsi, on se coupe vers le monde, nous rejette complètement parce qu'on n'est plus crédible. Alors, mon appel ce matin, pour chacun, chacune qui écoute, que nous puissions être sobres, que nous puissions être dans notre esprit sobres. Et au milieu, malgré tous ces phénomènes que nous expérimentons, nous devons rester sobres. Et nous devons garder nos deux pieds bien sur terre, bien ancré, parce que le diable va essayer d'utiliser ce sujet de temps de la fin pour nous apporter, pour apporter la confusion, pour apporter le chaos et ainsi annuler la voix des chrétiens. Alors, laissez-moi vous lire un passage qui est très peu connu de la Bible, qui parle de ces temps. Et pardonnez-moi, mais j'espère que vous ne m'en voudrez pas si je vais lire un certain nombre de passages de la Bible. Je sais que certains disent que ce n'est pas une bonne prédication lorsqu'on lit beaucoup de versets bibliques. Mais laissez-moi et donnez-moi la liberté aujourd'hui de le faire, de lire, parce que je crois que c'est nécessaire dans les temps qui sont les nôtres de lire plus de versets. Alors laissez-moi lire un passage dans 1 Jean chapitre 2, verset 18. Donc 1 Jean, chapitre 2, verset 18. Et pour les Français, je lis dans la Bible de Semeur. Verset 18. « Mes enfants, la dernière heure a commencé. Vous avez appris qu'un antichrist doit venir. Or, dès à présent, beaucoup d'antichrists sont là. Voilà pourquoi nous savons que nous sommes entrés dans la dernière heure. » Donc, Jean écrit, dit, verset 18, « Vous avez appris qu'un antichrist, on pourrait dire un antichrist final, le dernier, doit venir. » Et nous savons, nous pouvons lire dans l'Apocalypse, dans le dernier livre de la Bible, ce que cet Antichrist va faire. Mais Jean écrit quelque chose ensuite de très intéressant et que je crois beaucoup de chrétiens ne sont pas conscients. Il écrit dans la suite du verset 18 « Or, dès à présent, déjà maintenant, beaucoup d'antichrists sont là. » Voilà pourquoi nous savons que nous sommes entrés dans la dernière heure. Donc, même déjà à l'époque de Jean, il y avait déjà à l'œuvre beaucoup d'antichrists. Et il écrit, beaucoup d'antichrists viendront encore. Et c'est pourquoi nous savons que nous sommes entrés dans la dernière heure. Donc nous savons, nous sommes pleinement conscients que nous vivons dans les derniers temps. Voilà ce qu'il écrit. Donc, rappelez-vous, déjà à l'époque de Jean, il écrit que nous sommes déjà dans ces derniers temps. Donc quand Jean écrit, nous savons que nous sommes entrés dans la dernière heure. Il écrit que cette dernière heure est celle avant le retour de Christ. Nous savons qu'il y a eu différents antichrists dans le passé. Nous savons qu'il y a eu par exemple Néron, qui était un empereur, qui, on pourrait dire, était déjà un type d'antichrist. Il a mis le feu à Rome, et après avoir mis le feu à la ville, il a accusé les chrétiens en disant « ce sont eux qui ont mis le feu à Rome ». Alors, à l'époque, ils ont arrêté les chrétiens et les ont attachés à des poteaux le long de la rue et ils les ont mis le long des rues. Et une fois qu'ils étaient attachés sur ces poteaux, ils les ont enduits de goudron. Et une fois la nuit arrivée, ils ont endormi, les Romains de l'époque ont mis le feu à ces personnes afin que les corps de ces chrétiens qui brûlaient éclairaient les rues. Donc, Néron était déjà un type d'antichrist. Et ensuite, il y en a eu d'autres. Certains affirment en disant « Ah, mais Hitler était antichrist. Staline, qui a persécuté les chrétiens, qui a fait mourir des millions de personnes et de chrétiens, alors lui aussi, c'était l'antichrist. » Donc Staline, durant son temps, la révolution bolchevique, aussi Mao Tse-tung en Chine, qui a fait tuer des dizaines de millions de personnes de son propre peuple dans le cadre de la révolution communiste en Chine. Alors, si nous continuons à lire, verset 19, « Ces adversaires du Christ sont sortis de chez nous. » Mais en réalité, ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient restés avec nous. Mais ils nous ont quittés pour qu'il soit parfaitement clair que tous ne sont pas des nôtres. Donc 1 Jean 2, verset 19. Verset 20, « Vous, au contraire, vous avez reçu le Saint-Esprit dont celui qui est saint vous a oint, et vous connaissez tous la vérité. Si je vous ai cru, ce n'est pas parce que vous ne connaissez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, et qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Alors voici un autre texte que je souhaiterais mentionner. Voilà le verset sur lequel je voudrais m'arrêter, verset 22, où il est dit « Alors, qui est le menteur ? C'est celui qui nie que Jésus est le Christ. Car l'Antichrist, c'est celui qui refuse de reconnaître le Père et le Fils. » Donc, Jean ne parle plus d'une personnalité connue qui serait l'Antichrist, mais il devient très personnel et cela ne concerne tous, toi et moi. Il écrit, il dit « Celui qui nie que Jésus est le Christ et celui qui refuse de reconnaître le Père et le Fils. Voilà celui qui est l'Antichrist. » Alors, est-ce que tu comprends, est-ce que tu saisis ce que cela veut dire? Si tu rajoutes, si tu ajoutes quelque chose au sacrifice de Jésus, si tu nies ou si tu changes le fait que Jésus, Dieu lui-même, est venu pour les péchés du monde, si tu changes ces choses, alors tu deviens toi-même, tu es toi-même un antichrist, parce que tu refuses de reconnaître cela. Si tu dis ah, par-dessus le sacrifice de Jésus, nous avons besoin d'autre chose, nous avons besoin d'un autre intercesseur. Jésus ne suffit pas. Et par-dessus tout, si ta vie nie que Jésus est le Fils de Dieu, si ta vie ne démontre pas que Jésus est le Fils de Dieu, alors tu es menteur et tu es l'Antichrist. Alors considérons ce qu'il écrit, ce que Jean écrit, plutôt verset 15, dans le même chapitre. Qu'est-ce qu'il écrit, Jean ? Il écrit « N'aimez pas le monde, ni rien de ce qui fait partie de ce monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour pour le Père n'est pas en lui. » Alors toi qui aimes le monde, qui attire le monde dans ton église avec la musique mondaine, avec la mode du monde, les pantalons du monde, la manière dont tu te peins et tu te décores, alors la parole de Dieu, Dieu lui-même dit « Tu es l'Antichrist ». Cela devrait te faire trembler en lisant cela. Tu es un ennemi de Christ. Tu es un ennemi de Dieu. Verset 16. En effet, tout ce qui fait partie du monde, les mauvais désirs qui animent l'homme livré à lui-même, la soif de posséder ce qui attire les regards et l'orgueil qu'inspire les biens matériels, tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. Alors, mon ami, est-ce que tu réalises que tu peux avoir été à l'église de manière fidèle, peut-être même tu as témoigné, Mais que dit Dieu? Dieu dit, tu peux être un ennemi, mon ennemi. Dieu ne dit pas, ah, tu n'es d'aucune utilité. Dieu écrit que tu es un ennemi. Peut-être que tu vas me dire, oh, mais tu sais, j'ai une faiblesse pour le péché. Le Seigneur sait bien que il m'aime. Je sais que je veux l'aime et que je veux le servir, mais je suis faible. Ah, il sait que mon portable, cette pornographie sur mon portable, c'est juste une faiblesse. Alors le Seigneur va comprendre, doit être plein de grâce. Dieu dit, tu es un ennemi, tu es un antichrist, si tu aimes ces choses. Alors, quel est le point que je voulais mettre en avant? Ce point est que nous avons vécu dans les temps de la fin, depuis déjà un certain temps, qu'il y a eu déjà un certain nombre d'antichrists, même si nous savons qu'il y aura un antichrist ultime, comme cela est écrit dans le dernier livre de la Bible, dans l'Apocalypse. Donc, rappelez-vous que peut-être les chrétiens du premier siècle qui vivaient au temps de Néron, peut-être eux-mêmes se disaient, non, mais ce Néron, cet empereur, est l'Antichrist. Mais ce n'était pas lui. Alors, pour nous, chrétiens, aujourd'hui, avec ce que nous expérimentons dans son monde, je pense que nous serions aveugles de ne pas reconnaître qu'avec tout ce que nous expérimentons, avec tout les phénomènes que nous voyons, les signes, nous serions aveugles de nier qu'il y a quelque chose qui se passe. Nous sommes dans une crise avec une maladie qui, je pense, n'est clairement pas quelque chose de normal. Ce n'est pas juste une maladie qui est sortie comme dans le passé. Je pense que nous sommes face à une maladie qui n'est pas naturelle. Alors rappelez-vous, laissez-moi m'expliquer. Si vous voulez conquérir, si vous êtes une nation et que vous voulez conquérir une autre nation, alors vous n'êtes pas obligé toujours de faire la guerre, d'envoyer des avions, de bombarder ton ennemi. Mais une autre possibilité est de créer une maladie et d'essayer d'infecter le peuple ennemi ou la nation ennemie pour affaiblir. Et alors, cela provoque une maladie, provoque que les gens ne peuvent plus travailler, cela provoque que l'économie s'effondre. Cela provoque que vous n'avez plus de soldats ennemis pour combattre. Alors laissez-moi mentionner le 15 janvier. Alors je cite quelque chose, un rapport qui a été édité par le département d'État américain sur un certain nombre de faits qui ont été établis. Donc, ils ont publié des faits sur ce laboratoire de Wuhan en Chine, qui est un laboratoire où l'on étudie un certain nombre de bactéries, de virus, un laboratoire militaire. Alors le département d'État américain a conclu à trois, a fait trois conclusions sur ce qui s'est passé. Alors la première conclusion, à partir d'un certain nombre d'informations, le premier point était que il a été établi que les personnes qui travaillaient dans ce laboratoire, les scientifiques, ont été les premiers infectés par ce virus. Et qu'il y avait déjà des premiers cas en septembre et en octobre, il y avait déjà de 2019 donc, il y avait déjà des cas qui avaient été déclarés dans le personnel de ce laboratoire. Ensuite, le deuxième point qu'il mentionne, la deuxième conclusion, le deuxième point est que ce laboratoire à Wuhan faisait des expériences depuis déjà 2016 sur un certain nombre de virus. Il faisait des expériences. Donc il faisait l'étude de ces virus, dont les coronavirus, la famille des coronavirus. Et déjà, à cette époque, il faisait des études sur un virus qui est à 96,2% similaire à celui qu'on connaît aujourd'hui. Et déjà, à l'époque, ces scientifiques avaient publié dans des publications scientifiques, donc de tout à fait ouvertement, au niveau international, ils faisaient des publications sur l'étude de ces virus. Donc c'est quelque chose qui était public, qui était déjà publié. Et la Chine, à l'époque, déjà publiait pour partager l'information. Donc, il reconnaissait déjà à l'époque, où il publiait, que il faisait des manipulations entre les virus. Donc, il prenait une partie d'un virus et qu'il mélangeait. Donc, c'était quelque chose de public. Et déjà à l'époque, ils ont partagé l'information qu'ils travaillaient sur un virus qui s'appelle le RTRTG13. Et c'est ce virus sur lequel ils travaillaient qui est à 96,2% similaire avec le virus que nous expérimentons. Et à une certaine époque, ils ont retiré toutes les publications scientifiques qu'ils avaient publiées et toutes ces recherches sont alors devenues secrètes. Et ce laboratoire est dépendant et dirigé par l'armée. Donc ce n'est pas un laboratoire scientifique ouvert. Alors ensuite, le point que lorsque l'épidémie est partie de Wuhan, du milieu de nulle part, alors que cette épidémie est partie comme a commencé, quand l'épidémie a commencé, à ce moment-là, ils ont envoyé un général pour prendre le commandement de ce laboratoire. Donc ces informations que je partage, ce n'est pas moi qui les ai inventées, ce sont des informations qui ont été partagées et qui sont publics, dont le département d'État américain a parlé. Donc, ils ont mis à la tête de sa laboratoire un général militaire, donc, pour diriger les opérations. C'est un général, une femme, dont le nom Chang Hoi. Donc un général militaire avec beaucoup de titres. Alors laissez-moi juste mentionner les titres de ce général. Alors, son pédigré, on pourrait dire, alors son arrière-plan professionnel était, elle était chef, expert-chef en guerre biologique. Elle était ensuite deuxième, on va dire, directeur adjoint d'un autre laboratoire où déjà il faisait des recherches sur les virus. Elle était donc générale, elle a le rang de générale dans l'armée. Elle faisait partie de l'Académie de médecine militaire. Et elle fait aussi partie de l'Académie des sciences militaires. Alors, au niveau international, il y a une loi. Donc, il y a des conventions militaires dans le monde qui interdit la guerre biologique parce qu'on se rend compte de dangers que cela comporte pour le monde. D'utiliser les armes biologiques. Mais la Chine n'a pas respecté cela. Et les Chinois travaillaient depuis plusieurs années sur un certain nombre de virus avec les caractéristiques qu'ils recherchent. Alors, lorsque vous avez un tel virus, vous savez ce que vous pouvez en faire. Et si vous êtes en plus un pays avec à sa tête le Parti communiste, avec l'historique que nous connaissons, alors écoutez, parce que c'est quelque chose de l'important. Si vous avez ce souhait, comme les communistes, dans leur théorie, veulent enlever toute propriété privée, alors, un des moyens est d'utiliser un virus comme cela, de l'envoyer chez tes ennemis, voire même sur ton propre peuple, si tu n'en as rien à faire. Puisque un tel engagement, une telle campagne aurait alors des conséquences terribles. Alors, l'économie de certain nombre de nations s'écroule. Et alors, vous pouvez, une fois que vous avez affaibli l'ennemi, vous pouvez vous présenter en disant, ben moi j'ai une solution, je peux vous racheter l'entreprise pour 3 fois rien. Et ainsi, vous pouvez prendre le dessus et racheter ou reprendre les propriétés, les entreprises privées. S'il y avait des entreprises privées en Chine, alors vous pouvez les mettre en en faillite pour ensuite prendre le dessus et reprendre ces entreprises privées. Et si c'est un pays étranger, comme l'Amérique ou dans d'autres pays, si ces entreprises perdent de leur valeur, alors vous pouvez ensuite racheter ces entreprises, puisqu'elles auront perdu complètement leur valeur. Donc, que ce soit en Amérique ou dans d'autres pays. Et laissez-moi utiliser l'Afrique du Sud aussi comme un exemple. Je suis docteur, j'ai un des dangers est qu'on arrive à un état où on dit qu'il ne peut plus y avoir de docteur libre, mais que vous allez être embauché, vous allez travailler pour l'État. De même pour les avocats. Vous ne travaillez plus pour votre propre compte, vous travaillez pour l'État. Alors vous devez tout le travail légal est envoyé vers des avocats qui dépendent de l'État. Et ainsi, vous étouffez toute entreprise ou toute pratique privée. Et alors, tout devient passe sous le contrôle de l'État. Et alors, vous pouvez ensuite ramener d'autres docteurs, d'autres pays qui partagent les mêmes valeurs communistes. Et ainsi, vous utilisez cette crise pour votre propre bénéfice. Vous n'avez aucun souci du salut ou de la vie des millions de personnes qui meurent à partir du moment où, de toute façon, vous pouvez satisfaire vos propres désirs. Donc, dans l'épidémie que nous vivons, nous pouvons dire, oui, qu'il y a un certain nombre de signes étranges, de choses particulières qui se passent, qui nous font penser que, oui, nous vivons dans les temps de la fin. Nous ne savons pas, nous ne sommes pas conscients exactement comment l'esprit de l'Antichrist sera allié ou utilisera l'esprit du communisme. Mais laissez-moi vous avertir, vous prévenir dans un certain domaine. Et laissez-moi quand même vous avertir, vous prévenir. Vous avez des gens qui se ressentent, qui voient bien qu'il y a quelque chose de particulier dans ce que nous pouvons vivre. Mais alors, on pourrait dire qu'ils deviennent complètement fous et racontent n'importe quoi. Alors, laissez-moi citer un exemple. Il y a par exemple ce vaccin qui a été fait pour lutter contre la maladie du Covid. Donc dans le monde entier, il y a eu et il y a environ 33 différents vaccins qui ont été développés. Et je ne parle pas de n'importe quel vaccin. Et il peut y avoir des réticences ou des doutes par rapport à certains vaccins. Et on sait que certaines entreprises médicales, laboratoires pharmaceutiques, par exemple, utilisent les cellules ou les tissus d'enfants avortés pour faire leurs recherches. Mais cela ne veut pas dire qu'ils renouvellent, on pourrait dire, le stock. d'enfants avortés. Peut-être certains de ces cellules ont été pris il y a 20 ou 30 ans, et alors ils... tous ces cellules et ces tissus ne proviennent pas forcément uniquement d'enfants avortés. Vous avez aussi des recherches qui sont faites sur, à partir de cellules d'enfants qui sont morts-nés. Donc ils utilisent ces tissus ou ces cellules et ils reproduisent, ils maintiennent ces cellules pour qu'elles se reproduisent et ainsi ils obtiennent de nouvelles cellules. D'autres laboratoires pharmaceutiques utilisent aussi les cellules du placenta de la femme ou de l'enfant. Et c'est sûr, il est sûr que les chrétiens qui veulent se tenir pour la valeur de la vie, qui veulent être pro-vie, il est tout à fait compréhensible qu'on ne souhaite pas encourager ces pratiques avec l'utilisation de certains vaccins. Et avant que je parle, que je me prononce sur un certain nombre de choses, nous avons à Docteur pour la vie, Doctors for Life, fait des recherches approfondies sur ce sujet afin de ne pas parler sans savoir. Alors, au jour d'aujourd'hui, nous savons quels sont les vaccins que l'Afrique du Sud veut distribuer. Les deux plus connus sont le vaccin de Pfizer, du laboratoire Pfizer, et du laboratoire Moderna. Donc voilà les deux les plus connus. Donc aucun de ces deux laboratoires n'ont utilisé ce genre de tissu ou de cellules d'enfants avortés ni dans la recherche, ni dans le développement de leur vaccin. Et aucun de ces deux laboratoires n'ont utilisé ces cellules pour produire leur vaccin. Donc ce n'est pas seulement dans la recherche ou dans l'élaboration du vaccin, mais aussi dans la production de ces vaccins. Lorsqu'on a testé, on a fait les tests sur ces vaccins, donc avec le produit final, il a été retrouvé certaines traces de cellules d'enfants, de bébés avortés. Mais on ne peut pas vérifier si c'était un avortement ou si c'était une fausse couche. On ne peut pas aussi être sûr si c'était du placenta ou de l'enfant. Mais les tests, d'autres tests, n'ont montré aucune trace de ce genre de cellules. Donc si vous utilisez le dernier ou la version finale de ces produits, vous n'êtes incapable de savoir l'origine de ces cellules. Donc, pour savoir quelle est la part, quels sont les vaccins qui pourraient avoir des traces de ce genre de cellules et ceux qui n'en ont pas. Donc, si je peux me permettre de donner un avis, c'est celui que Paul a donné. Paul a dit, si tu vas et que tu achètes de la viande, tu n'as pas besoin de demander, de savoir si la viande a été sacrifiée aux idoles. Donc nous savons que ces deux laboratoires n'ont pas utilisé de cellules d'enfants dans la production et la recherche. Même si certains disent qu'ils ont retrouvé, mais on ne sait pas exactement. Donc mon avis, et si je peux me permettre de dire en tant que médecin, le vaccin est une bonne chose. Lorsque le vaccin sera disponible en Afrique du Sud, je serai le premier à me présenter à recevoir ce vaccin. Parce que malheureusement, nous ne savons pas exactement quelles sont les versions de vaccins qu'ils veulent. Nous ne savons pas quel genre de vaccin nous allons avoir en Afrique du Sud. Alors si je peux me permettre, il y a un vaccin dont on parle est celui d'AstraZeneca. Alors si je peux me permettre de dire, je ne suis pas intéressé par ce vaccin parce que eux par contre utilisent dans la recherche, dans la production, un certain nombre de choses, ils ont utilisé ces cellules. Et mon souhait, et j'espère que le gouvernement nous laissera le choix, la liberté de choisir quel genre de vaccin nous voulons et que ce ne sera pas imposé. Mais mes amis, en ce qui concerne ceux qui disent que qui affirment que le vaccin va inoculer la marque de la bête, ce genre d'histoire, alors laissez-moi vous dire, c'est du grand n'importe quoi. Avec les recherches que Dr. Swalife a fait, il n'y a absolument rien de tout cela. Pour ceux qui affirment que ce vaccin ou le vaccin affecte ton ADN et va transformer ton ADN, ça aussi, c'est absolument médicalement n'importe quoi d'affirmer de telles choses. Je ne veux pas passer plus de temps sur cela, sur ce point. Mais mes amis chrétiens, soyez vigilants parce que les chrétiens sont prompts à propager ce genre d'arguments et ce genre de raisonnements qui n'ont aucune base, et alors on perd toute crédibilité aux yeux du monde. Parce que ce sont des histoires bizarres, ce sont des histoires ridicules même des fois. Alors, au niveau de la recherche, alors, j'ai pas tout compris, mais ils utilisent une certaine technique qui va réduire la taille jusqu'à la nanotechnologie. Mais ça n'a rien à voir avec la nanotechnologie. Je me rappelle avoir eu en conseil un garçon d'Europe il y a 20 ans déjà et qui était en chaise roulante. Et à l'époque, je lui ai dit, qu'est-ce qui t'est arrivé? Et il m'a dit, j'ai eu la polio. Je lui ai dit, comment ça la polio? Mais la polio n'existe plus en Europe. Tout le monde a été vacciné contre la polio. Et il m'a dit, non, mes parents avaient faisait partie d'un groupe de chrétiens conservateurs radicaux qui étaient contre la vaccination. Et donc, ils ont refusé que je me fasse vacciner contre la polio quand j'étais enfant. Et le résultat est que ce jeune a été contracté la polio et qu'il a eu sa vie en étant dans fauteuil roulant. Avec la vaccination, nous avons réussi dans le monde à éradiquer un certain nombre de maladies qui étaient mortelles. Et quand les musulmans, certains musulmans en Afrique du Nord ont commencé à dire à leurs fidèles que certains ont commencé à, dans le monde musulman en Afrique du Nord, à répandre l'information comme quoi les vaccins, parce qu'ils viennent du monde occidental, ont des agents qui font que les femmes deviennent stériles. Alors, les gens dans certains pays ont commencé à arrêter de se faire vacciner. Et alors, dans certains pays d'Afrique du Nord, parce que les gens ont arrêté de se faire vacciner, vous avez certaines maladies qui avaient été quasi éradiquées, qui se répandent et des gens meurent à cause de ces maladies. Alors voilà, je pense que j'ai donné assez d'informations sur ce sujet. J'aimerais que nous revenions à la parole de Dieu. Et j'aimerais citer et que nous considérions deux passages dans la Bible qui nous rappellent ou qui sont similaires à ce que nous vivons aujourd'hui. Alors, lisons Luc, chapitre 2, verset 1. Donc, l'évangile de Luc, verset 2, chapitre 2. Donc, Luc 2, verset 1. En ce temps-là, l'empereur Auguste publia un édit qui ordonnait le recensement de tous les habitants de l'Empire. Pourquoi je cite ce verset ? Parce que nous voyons comment de plus en plus des pays se liguent ou des pays se prennent dans une orientation où on est en train de restreindre la parole des chrétiens, où on est en train de restreindre le christianisme. Alors, rappelez-vous, pourquoi est-ce que l'empereur Auguste a publié un édit qui ordonnait ce recensement ? Beaucoup estiment que ce recensement était dans un but de lever des taxes, d'imposer les gens. Alors, je vais aller rapidement sur ça. J'espère que vous arrivez à suivre. Alors, rappelez-vous, à l'époque, Rome dominait le monde connu de l'époque. Et rappelez-vous, dans la statue de Daniel, dans la statue, Rome est représentée par les jambes d'airain. Pourquoi elles ont été comparées à ces jambes d'airain ? Parce que ils étaient brutaux. L'airain n'a pas de sentiment. L'airain est dur. Aucune compassion. Et les Romains ont conquis le monde avec cette brutalité, avec un état d'esprit sans pitié. C'est ce qui leur a permis de régner. Donc, en ce temps-là, l'empereur Auguste publia un édit qui ordonnait le recensement. Donc, rappelez-vous, Rome, l'Empire romain, gouvernait le pourtour méditerranéen, avec l'Italie, la Grèce, la France, la Judée, partie de l'Allemagne, on pourrait dire le monde de l'époque. Et dans cet empire, vous aviez là deux personnes, Marie et Joseph. Joseph n'était pas soldat. Joseph n'était pas un prince. Il ne faisait pas partie d'un mouvement de résistance contre Rome et pour renverser l'Empire romain. Joseph et Marie étaient, on pourrait dire, rien, n'étaient personne. Et ils étaient là, au milieu de cet empire romain puissant. Et ils n'avaient aucun pouvoir de changer quoi que ce soit dans cet empire. De toute façon, qui aurait écouté un charpentier banal de Nazareth? Nous aurions pensé à l'époque que cet empire était l'Antichrist. Et peut-être nous aurions dit « Ah, mais nous sommes perdus, nous n'avons aucune chance contre cet empire, contre la puissance de cet empereur. » Peut-être certains auraient tombé dans la dépression en se disant « Mais nous n'avons aucun espoir, aucune chance contre cet empire romain. » Et comme aujourd'hui, certains se tombent dans la dépression, sont déprimés en se disant « Mais face à cette épidémie de Covid-19, nous n'avons aucune chance. » Rappelez-vous, les Juifs ont essayé de se rebeller contre Rome à trois fois. Et trois fois, ils se sont été écrasés par la puissance de Rome. Mais vous voyez comment Dieu, par où il est venu. Tout était aligné, on pourrait dire. Tout était orchestré pour que le plan de Dieu s'accomplisse. Parce que Dieu voulait que le Messie naisse à Bethléem. Et alors il a fait en sorte que Marie soit à Bethléem à ce moment-là. Alors, mes amis, rappelez-vous que Dieu est 100 kilomètres, 1000 kilomètres, des milliers de kilomètres en avant. Il pense bien avant que nous pouvons réaliser quoi que ce soit. Dieu était en contrôle de tout. Rome, l'Empire romain, n'allait pas arrêter Dieu dans son plan. Vous savez qui aurait pu faire ça? Ce qui aurait pu arrêter ce plan divin, ce aurait pu être l'irritation de Marie qui aurait dit à son mari, à Joseph, mais comment je suis enceinte et tu veux m'emmener pendant 4 jours sur un âne? Tu veux m'emmener à Bethléem alors que je suis enceinte sur le point d'accoucher? Le péché aurait pu arrêter ce plan divin. Et une autre chose qui aurait pu arrêter ce plan divin, c'est si Joseph, peut-être durant ses 4 jours de voyage, s'était retourné vers Marie en disant « Mais Marie, et puis alors cet enfant qui n'est même pas le mien, où est-ce qu'on va aller? Et puis qu'est-ce que c'est toute cette histoire ?» Si le péché, la colère, la jalousie, l'irritation étaient rentrés, alors ce plan divin aurait été arrêté. Vous savez, ce qui peut arrêter le plan divin face à cette épidémie que nous connaissons, ce n'est pas la souffrance, ce n'est pas les 4 jours sur l'âne, le voyage, ce n'est pas d'avoir accouché dans une étable. Et en tant que docteur, je peux vous rappeler quel danger, quel risque important cela a d'accoucher dans une étable. Vous aviez dans le passé certaines nations, peuples, qui mettaient de la bouse de vache sur le cordon ombilical une fois que l'enfant était né. Et moi, en tant que médecin, j'ai eu à soigner certains de ces enfants où les parents avaient mis de la bouse de vache sur le cordon ombilical. Et alors, l'enfant était tétanisé à cause des germes et des bactéries qui se développaient à cause de cette pratique. Et j'ai vu moi-même, témoin, comment l'enfant, le bébé, était tétanisé. Et leur mâchoire était complètement serrée à cause de cet état. Et à cause de quoi? À cause de cette pratique qui voulait qu'il fallait mettre de la bouse de vache sur le cordon ombilical de l'enfant. Donc on ne peut pas imaginer tous les dangers, tous les risques qu'il y a eu d'accoucher dans une étable. Et pourtant, au milieu de tout cela, Dieu a utilisé cette petite nation d'Israël. Est-ce que vous avez jamais réalisé qu'Israël n'a jamais fait partie de ces grandes nations, de ces grandes puissances? La seule époque où Israël a été puissant, c'était au moment de David et de Salomon. Et pourtant, c'était bien petit en comparaison. C'était bien petit et faible en comparaison avec l'Empire assyrien, par exemple, ou l'Empire grec, l'Empire babylonien, les Égyptiens. Ces nations, ces puissances ont conquis le monde de l'époque. Et Israël, au milieu de tout ça, n'était bien infime, insignifiant. Mais parce que Dieu a aimé ce peuple, aime ce peuple, et les a utilisés. Et au milieu de cet empire romain, Dieu a utilisé Joseph et Marie pour accomplir son plan. Alors, laissez-moi et pardonnez-moi si je lis à nouveau un nouveau passage. Pourquoi les nations, psaume ? Pourquoi les nations se liguent contre Dieu ? Alors, écoutez, celui qui est sur le trône rit. Il se rit de les nations, de ses chefs. Et dans sa colère, il parlera et il dira: j'ai mis Sion sur la colline. Tu es mon fils bien-aimé. Demande, et je ferai des nations ton héritage. Tu les mèneras avec un sceptre de fer. Maintenant, ô roi, sois sage. Vous, les peuples, les dirigeants de ces nations, je vous avertis. Servez le Seigneur avec crainte. Embrassez le Fils afin qu'il ne se mette pas en colère et qu'il bénisse celui qui trouve refuge en lui. Mes amis, nous n'avons pas besoin d'avoir peur de toutes ces organisations, de toutes ces nations, ces gouvernements, ces autorités qui mettent toutes sortes de stratégies en place. Dieu, dans son omnipotence, ne dit pas seulement « soumets-toi à ma volonté ». Dieu va même jusqu'à l'extrême en disant « embrasse le Fils ». Embrasse ses pieds comme cette femme qui s'est présentée à lui et qui a oint ses pieds et qui a embrassé ses pieds. Vous, les nations, je ne sais pas, je ne me soucie pas de savoir si ce sont des nations païennes ou pas, si des nations athéistes ou pas, sans Dieu, qui rejettent Dieu ou pas. Embrassez le Fils afin qu'il ne se mette pas en colère. Et voilà ce que ce Seigneur nous rappelle et aussi ce qu'il a fait au temps de Christ. Voilà. Christ est né dans cet empire romain et beaucoup n'ont pas réalisé ce qui se passait. Mais on pourrait dire que c'était aussi un empire des temps de la fin. Ils ont tué les chrétiens, ils les ont persécutés, ils les ont jetés aux lions. Rappelez-vous, ils les ont attachés à des poteaux pour les brûler. Mais Dieu, malgré tout cela, était occupé avec son plan. Alors, mes amis, écoutez-moi. Nous ne devons pas seulement ne pas être déprimés, nous ne devons pas seulement ne pas craindre. Nous devons aussi continuer à répandre l'évangile de Christ, le Seigneur Jésus. Certains de ceux qui parlent tant de ces vaccins, lorsque vous recevez leur message, je me dis des fois, mais au milieu de tout ce qu'ils racontent, où est l'évangile? Ils sont tous occupés avec toutes sortes de théories sur les vaccins, mais où est l'évangile? Il nous faut prêcher l'évangile de Christ en saison et hors saison. Rappelez-vous du message d'Oncle Erlo le 1er janvier. Il a dit, voilà ma prière, et que l'évangile continue, que l'évangile soit répandu pour cette nouvelle année. Non pas que nous restions assis sur notre chaise en attendant face à cette épidémie. Alors laissez-moi citer le dernier exemple. Durant l'Empire assyrien, 2000 ans avant Christ, alors rappelez-vous quelle puissance avait l'Empire assyrien. Pendant 1600 ans, ils ont dominé le monde de l'époque et aucun n'a pu lever le petit doigt contre eux. Nous, ici en Afrique du Sud, notre histoire ne commence qu'il y a quelques centaines d'années. Les Assyriens ont été les premiers à utiliser le fer pour faire des armes. Puisqu'avant, les autres nations, on faisait les armes avec du bronze. Les rois assyriens étaient connus pour être nommés les rois guerriers. Parce que la condition pour être roi de cet empire était d'être un général d'armée, d'avoir combattu à la guerre et d'avoir non seulement combattu, mais d'avoir gagné les combats. Et on pourrait dire là, de nouveau, cet empire était une circonstance des temps de la fin, comme Jean l'écrit dans ce que nous avons lu. Et vous savez ce que Dieu a fait durant cette époque ? Dieu avait un amour et une compassion pour ces peuples, ce peuple pourtant méchant et guerrier. Et Dieu a alors parlé à un homme. Et il a dit, je veux donner l'occasion à ces Assyriens sanguinaires, l'occasion de recevoir le salut. Et le nom de cet homme à qui Dieu a parlé était Jonas. Et la capitale de cet empire assyrien était Ninive. Et Dieu a dit, Jonas, je pleure pour ces personnes, ces Assyriens qui meurent sans salut. Alors va prêcher les vœux. Va prêcher contre les habitants de Ninive afin qu'ils se repentent et qu'ils confessent qu'ils se repentent. Alors laissez-moi mentionner quelque chose au milieu de cette histoire. Nous avons mentionné dans le passé que l'importance de confesser le péché devant un homme ou une femme de Dieu. Et je sais qu'il y a eu différentes pratiques dans le passé. Et Dieu, au cours de l'histoire, a mis l'accent sur l'un ou l'autre aspect. Au temps de Martin Luther, l'importance était axée sur les œuvres. Qu'il était important de payer même pour ton salut. C'était voilà l'enseignement qui était enseigné à l'époque. Que le salut se faisait par les œuvres. Et alors Martin Luther est arrivé et il a mis l'accent, il a rappelé que non, que le salut vient de la foi. Et c'est vrai, il avait raison. Le salut vient de la foi. Et c'est pourquoi Luther n'aimait pas le livre de Jacques, parce que le salut, Jacques met l'accent aussi sur les œuvres. Il dit « la foi sans les œuvres n'est inutile ». Mais pour le temps, l'époque, à l'époque où Luther a vécu, il fallait mettre l'accent sur cette foi contre ce qui était enseigné par l'Église de l'époque. Et c'était il y a quelques centaines d'années. Et même Luther a écrit que le livre de Jacques, c'est comme de la paille, parce qu'il met trop l'accent sur les œuvres. Mais notre société a évolué, a changé, a continué. Maintenant, vous avez Pierre, Paul, Jacques, n'importe qui vient et dit « je crois ». Et cela n'a pas d'importance, les œuvres. Cela n'a aucune importance ce que je fais. Je crois en Dieu. Je peux vivre dans l'immoralité, je peux vivre dans la débauche, je fais ce que je veux. Tant que j'ai la foi, tout va bien, je suis sauvé. Je crois moi-même. Où nous vivons dans une société, dans une époque où nous devrions revenir et nous rappeler l'importance des œuvres. Parce que l'Église d'aujourd'hui, l'Église chrétienne, a fait de la sainteté de Dieu un sujet de moquerie. Dans l'Église aujourd'hui, vous retrouvez tout ce que vous trouvez dans le monde. Vous retrouvez les modes de ce monde, vous retrouvez les musiques de ce monde, même avec les lumières et la sono et tout ce que vous trouvez dans une discothèque, vous le retrouvez dans l'église. Et vous allez à l'église, aujourd'hui c'est plus un amusement, vous avez les gens se dandinent de droite et de gauche et dansent. Et Dieu a œuvré dans les pays d'Afrique de l'Est, au milieu des églises anglicanes. Et Dieu a utilisé Dr. Joe Church. Et déjà à l'époque, dans ces réveils des pays d'Afrique de l'Est, Dieu a révélé ou a mis l'accent sur cet aspect de la confession avec une autre personne ou devant une autre personne. Cela ne veut pas dire que la foi n'a plus d'importance. Cela ne veut pas dire que le conseiller prend la place de Jésus qui est le seul sauveur, qui est le seul, celui seulement qui peut pardonner. Mais c'est un aspect de la foi, de la pratique du christianisme sur lequel Dieu met l'accent dans notre époque. Pourquoi ? Parce que les gens sont assis sur leurs péchés, cachent leurs péchés dans leur vie, continuent comme si de rien n'était, même à servir Dieu en gardant ces choses dans leur cœur. Et en pensant qu'en faisant ainsi, ils iront au ciel. Alors rappelez-vous l'histoire de Jonas. Jonas n'avait pas envie, n'avait pas l'esprit d'aller à Ninive pour prêcher dans cette capitale de cet empire le plus puissant de l'époque. Jonas n'avait pas cette passion. Jonas n'avait pas la passion pour annoncer l'Évangile à d'autres que sa propre nation. Alors laissez-moi dire cela en passant. Voilà ce qui anime le cœur de cette œuvre de la mission. Un homme qui a eu la passion, qui a eu l'amour, qui a eu la compassion pour ceux qui ne faisaient pas partie de son peuple, pour ceux qui ne faisaient pas partie, qui n'avaient pas sa couleur de peau, qui a eu un cœur pour le peuple zoulou. et il est resté consacré à cela. Et il a aimé, et il aime encore aujourd'hui, il a aimé ce peuple Zoulou comme lui-même. Alors laissez-moi vous dire que là où le diable cherche à détruire cette œuvre, il cherche à détruire cette unité parmi les personnes où Christ est le centre. Et le diable continuera à essayer de détruire cette unité entre personnes de différentes races, de différentes nations, parce que c'est le cœur de l'Évangile. Oui, nous vivons dans les temps de la fin où de choses étranges, bizarres se passent et qui nous font penser, oui, peut-être que ce dernier antichrist ultime est au coin de la rue. Mais rappelle-toi que ce n'est pas cet empire qui va te tuer spirituellement. C'est ton propre cœur qui te tuera spirituellement si tu ne prends pas garde. Et Jonas, Dieu donc lui a dit, va et prêche à Ninive. Et alors Jonas n'a pas écouté, il a pris un bateau et il est parti dans l'autre sens. Et il est descendu dans la cale du bateau pour dormir. Alors toi, qu'en est-il? Est-ce que tu dors? Alors que peut-être tu travailles, peut-être alors que tu gagnes de l'argent. Est-ce que tu es endormi comme Jonas? Jonas a été appelé par Dieu. Rappelez-vous, même au milieu de la tempête, les païens qui étaient sur le bateau ont crié à l'Éternel. Jonas n'a rien vu. Jonas n'avait aucune envie de se repentir, de confesser sa faute, ses péchés. Et il a fallu que le capitaine du bateau vienne le réveiller. Et lui dise, mets-toi debout, prie ton Dieu. Et qu'a fait Jonas? Est-ce qu'il est tombé à genoux et a crié à Dieu en demandant pardon? En disant, Seigneur, pardon, j'ai péché contre toi, j'ai désobéi. Non, Jonas n'était pas disposé à confesser sa faute. Il a eu la même attitude que Élie. Quand Samuel est venu voir Élie, le sacrificateur Élie, il lui a dit, quand Samuel lui a dit, Dieu a décidé de te supprimer avec tes fils. Élie a répondu, « Ah, Dieu est Dieu, qu'il fasse ce qu'il lui semble bon. » Aucune indication de remords, de repentance pour le mal qui était en lui. Peut-être que les conséquences avaient été trop grandes. Quoi, mes enfants, que je les retire de leur statut de sacrificateur, quelle honte, quel embarras je vais devoir faire face. Alors rappelez-vous, mes amis, le diable met tout en œuvre pour que tu restes endormi dans ton péché, afin qu'il puisse t'emmener avec lui en enfer. Peut-être es-tu occupé avec ton portable plutôt que de passer du temps dans la parole de Dieu. Tu es sur ton lit et tu passes des heures sur ton portable et tu, laisse-moi te dire, tu es endormi. Et tu dis peut-être même, hein, mais moi je fais partie de la mission, je travaille sur la mission, je reçois un salaire. Alors laisse-moi te dire, alors que tu es là peut-être sur la mission, avec ton, tu es engagé dans un travail, tu touches un salaire, laisse-moi te dire, tu es endormi. Et laisse-moi te dire, c'est de cette manière, avec cette attitude, que tu iras en enfer. Ne veux-tu pas réaliser qu'il est temps que tu te réveilles ? Oh, peut-être tu me diras, c'est trop ennuyeux. J'ai trop de temps, je ne sais pas quoi faire. Alors si tu as trop de temps, si tu dis que tu as trop de temps, tu ne sais pas quoi faire, pourquoi tu ne prends pas la parole de Dieu ? Pourquoi est-ce que tu passes ton temps avec les choses du monde ? Alors laissez-moi conclure avec une parole dans Colossiens 3, verset 5. Colossiens chapitre 3, verset 5. Faites donc mourir tout ce qui dans votre vie appartient à la terre. Alors, comment est-ce que tu fais mourir ? En confessant, en te repentant de ces choses. Alors qu'est-ce qu'il est dit ? C'est-à-dire l'inconduite, l'impureté, les passions incontrôlées, les désirs mauvais et la soif de posséder qui est une idolâtrie. Verset 6 de Colossiens 3. Ce sont de tels comportements qui attirent la colère de Dieu. Alors, mes amis, voici le danger, le plus grand danger auquel nous faisons face dans ces temps de la fin. Je pense même un aveugle pourrait voir qu'il y a une attaque massive contre l'Église, contre les vrais chrétiens. Mais sais-tu quelle est ta tâche ? Quel est ton travail ? Ta tâche est d'amener, d'annoncer l'Évangile même à tes ennemis. Utilise chaque minute pour partager l'Évangile autour de toi. Vous savez quel était le problème de Jonas ? Jonas était, on pourrait dire, un chrétien charnel. Il pensait qu'il pouvait servir Dieu comme il avait envie, comme il avait le souhait, quand il voulait, où qu'il voulait. Alors laisse-moi te dire, toi qui sers Dieu, tu sers le Seigneur quand tu veux, où tu veux et comme tu veux, alors laisse-moi te dire, tu es en chemin vers l'enfer. Parce que c'est un chrétien charnel. Mais nous connaissons l'histoire, comment finalement Jonas est allé à Ninive et qu'il a prêché. Ninive, qui était la capitale pendant des centaines d'années de cet empire. Et nous savons, nous lisons comment ce peuple a répondu à la prédication de Jonas. Il est dit, du plus grand, du roi jusqu'au plus petit dans la ville, se sont repentis. Et Jonas s'est assis à l'extérieur de la ville. Et alors, il était en colère. En colère de voir la repentance. Et Jonas était tellement occupé avec sa propre personne, tellement préoccupé avec son propre confort, que lorsque le ricin est mort, alors il s'est mis en colère contre Dieu et il a dit : « Je préfère mourir. » Alors voilà la maladie du christianisme aujourd'hui. Le christianisme d'aujourd'hui est tellement égoïste, tellement concentré sur lui-même. Tout doit aller dans leur sens et ne pas perturber le confort. Et au point que nous ne réalisons pas quel est l'appel que Dieu nous donne. Que le Seigneur nous fasse grâce. Nous voulons prier. Seigneur, merci pour ta parole. Que cette parole puisse continuer à travailler dans nos cœurs et à parler, nous parler. Amen.